On peut tourner un peu. Alors, bon matin tout le monde. Vous pouvez répondre au moins à cette question-là, là, bon, à ce point-là. Vous avez vu l'image de moi et mon père à l'avant. On ne dit pas qui est qui, par contre. On va taire ça. On est content d'être avec vous, toute la famille. Ça nous fait tout le temps plaisir de vous voir et de revenir vous voir ici à Sainte-Marie. À l'Assemblée de Sainte-Foy, on est en train de faire une étude sur Philippiens au chapitre... on est rendu au chapitre 3, donc on est relativement avancé dans l'étude de Philippiens. Je vous présente un message que j'ai donné la semaine passée à Sainte-Foy. Donc, tournez avec moi dans Philippiens au chapitre 3. On va regarder les versets 1 à 14. Philippiens 3, les versets 1 à 14. Vous pouvez suivre ça dans vos bibles, évidemment, puis ça va être affiché à l'avant également. Donc, Philippiens 3, 1 à 14. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Pardon. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Correct, Mario, je peux continuer? C'est un beau texte, c'est un de mes textes préférés, honnêtement. C'est un texte très profond qui amène à l'adoration, qui amène à considérer le Seigneur Jésus, qui peut considérer nos propres vies également. Donc, ma prière, évidemment, c'est que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, bénisse ce temps qu'on va avoir à étudier ce texte ensemble ce matin. Comme vous savez, je suis natif de Sainte-Marie. j'ai grandi ici, puis plusieurs d'entre vous me connaissaient depuis que je suis tout jeune, dont mes parents. Depuis que je suis tout jeune. Qu'est-ce que j'aimais quand j'étais petit? Le hockey. Ben oui, j'aimais le hockey. Les poils à terre, on va se garder du jet, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. J'aimais le hockey. On a grandi dans une famille qui aimait beaucoup le hockey. Puis on déteste pas ça encore. Puis C'était naturellement, là, quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup le hockey, depuis le plus loin que je me souvienne. Puis mes parents m'ont raconté l'histoire quand j'étais bébé. Mes trois premiers mots étaient « papa, maman », probablement « maman, papa », probablement « maman, papa » et « hockey ». Donc, j'aimais vraiment ça beaucoup, très jeune. Puis, je cherchais les trucs de hockey dans les catalogues. J'étais très motivé à tout ce qui touchait le hockey. Donc, mes parents, évidemment, voyant ça, voyant mon intérêt, ont décidé d'hypothéquer toute leur fin de semaine pour que je puisse assouvir ma passion, puis décider de m'inscrire pour que je puisse jouer au hockey. Donc, j'ai commencé à jouer au hockey quand j'avais à peu près l'âge de Mégane. Donc, quand j'ai eu l'âge de Mégane, j'ai commencé à jouer au hockey. Avec, comme tout enfant qui commence à jouer au hockey, avec de grandes ambitions. Tu sais, je me voyais loin, je me voyais comme un grand joueur qui allait faire ça toute sa vie. Donc, j'ai commencé, c'était les calibres, les noms ont changé, mais j'ai commencé novice les premières années. On commence, au début, on apprend les rudiments du hockey, on apprend les règles en général. Après ça, on commence à jouer un peu plus compétitif, commence comme un joueur de soutien. Après ça, un joueur un peu plus défensif. Puis à ma dernière année novice, quand j'avais, je crois que c'est 9 ou 10 ans, j'oublie l'âge, là, il y a quelque chose qui a décliqué. Puis, je suis devenu un joueur offensif. Puis, je suis devenu un bon joueur. J'ai commencé à faire des buts. J'ai commencé à être un joueur dominant. J'ai commencé à gagner des trophées, à gagner des tournois avec mon équipe. J'étais peut-être un excellent joueur. Au point que j'avais fini premier marqueur de notre ligue à ce moment-là. Donc, je pourrais probablement affirmer que j'étais le meilleur joueur de 10 ans de la région. Ce qui, avec le recul, ne vaut pas grand-chose. Mais dans ma perspective, quand j'étais jeune, c'était beaucoup. J'étais un bon joueur de hockey. C'était intéressant, mais en parallèle, il se passait quelque chose, par contre, dans ma vie, dans la vie de la famille Ferland. C'est que s'il y avait un petit Ferland qui jouait au hockey, qui était bon, un peu plus tard, un autre Ferland a commencé à jouer au hockey. Vous connaissez, là, mon frère. Qui était un peu plus gros, un peu plus costaud que moi. Puis si je faisais des buts quand j'étais à ce calibre-là, lui, il faisait beaucoup de buts. Puis si je gagnais des trophées, lui, il gagnait beaucoup de trophées. Puis il était vraiment très bon, là, vous connaissez. Il était vraiment très bon au point qu'on avait, la dernière année novice, on avait le même coach. Puis moi, mon coach, il me poussait pour que je puisse être bon, pour essayer de gagner. Puis le même coach, il disait à mon frère, ben là, faudrait que tu lèves le pied parce que c'est pas vraiment juste pour les autres équipes. Fait qu'il retenait pour pas qu'il fasse de but, à quel point qu'il était bon. Donc, rapidement, à mon jeune âge, je me suis rendu compte que c'était possible qu'il y avait des meilleurs joueurs de hockey que moi dans la vie, puis que mes perspectives de carrière étaient probablement érodées, puis que je devais considérer d'autres choses. Donc, au lieu d'être. J'ai continué à jouer au hockey, je joue encore bien noblement dans des ligues de garage, mais mon rôle était plus pratiquement un peu spectateur, puis d'encourager mon frère qui était, lui, le meilleur joueur. Pourquoi je vous raconte ces histoires-là? C'est évidemment, la lecture de ce texte-là me faisait penser un peu à un autre niveau, ce que la vie de l'apôtre Paul avant sa conversion. L'apôtre Paul, ici, va raconter un peu son témoignage. Essentiellement, il raconte une portion de son témoignage. L'apôtre Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse, il raconte son témoignage, puis il se compare. Dans son témoignage, il se compare comme moi, si je me comparais avec mon frère, dans l'exemple que je viens de vous donner. Paul se comparait avec quelqu'un d'autre, qui est le Seigneur Jésus. Puis, il va arriver à un peu le même constat que moi, en puissance 1000, qu'il y en avait des meilleurs que lui. Puis, il va réaliser au niveau de la justice qu'il y a des gens qui sont meilleurs que lui. Fait que c'est un peu l'idée du texte ce matin qu'on regarde au niveau de la comparaison dans le témoignage que l'apôtre Paul va donner de sa propre vie en comparaison avec celle du Seigneur Jésus. Donc, on va regarder ce texte-là ce matin sous les aspects suivants. Premièrement, le mensonge des faux circoncis. Un peu une mise en garde qui va expliquer pourquoi que Paul va donner son témoignage. Les exploits de Saul de Tarse, donc les exploits de Saul avant sa conversion. L'excellence du Seigneur Jésus, l'excellence de Jésus-Christ, quand Paul va rencontrer Seigneur Jésus. Ensuite, l'objectif de Paul, après sa conversion, c'est quoi l'objectif, les motivations pour sa propre vie. Puis évidemment, on va voir des applications pour vous et moi en 2025. Donc, ça vous va? Avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on est rassemblés devant toi, on s'est rappelé ce matin de la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus, puis on te remercie parce qu'on a le privilège d'étudier ta parole, puis Seigneur, on veut s'approcher humblement de toi, on veut que tu diriges ce temps, on veut que tu mettes une lumière sur ce texte pour qu'on puisse le considérer, pour qu'il puisse devenir plus clair, plus pratique pour nous, puis que ça ait un impact sur chacune de nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, le mensonge des faux circoncis. Le texte débute par l'expression « au reste ». Donc, « au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Donc, quand on mentionne « au reste », il y a une idée de transition. Le chapitre précédent, je vous épargne les détails. Paul parlait de Timothée, parlait d'Épaphrodite, pardon. Il parlait de ces hommes-là, de circonstances par rapport à eux. Puis là, il arrive ici, puis il va faire une transition, puis il mentionne au reste. Puis ce qui est intéressant, c'est que Paul, quand il utilise cette expression-là dans les Épîtres, au reste, il y a une idée de... Il tend vers une conclusion. Il va tendre vers une conclusion. Son but, c'est qu'il veut faire un résumé avant de conclure en général. Puis j'ai mis quelques textes. Ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, il y a 13 chapitres à 2 Corinthiens. Il va dire « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. » Donc, il veut mettre l'accent sur un point particulier avant de conclure, avant de saluer les frères. Dans Éphésiens 6, verset 10, il y a 6 chapitres dans Éphésiens. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. » Donc, une idée de résumé. Puis dans Philippiens, il y a 2 « au reste ». C'est intéressant, c'est ça l'épître qui est comme ça, puis au reste, au chapitre 4, le verset 8, « Frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. » J'arrête la lecture ici. Donc, Paul, il s'apprête à résumer dans le texte qu'on regarde, puis là, il va faire une pause. Il va débuter un peu, résumer un point qu'il veut mettre l'accent, puis après ça, il va prendre une pause pour discuter d'un enjeu. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, il va mentionner avant, c'est quoi le point qui tient à mettre l'accent, le point important qui tient à résumer, c'est de ça... Réjouir dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Puis il va mentionner, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela est salutaire. Donc, il répète des choses qu'il a déjà mentionnées, promet des choses que quand il était parmi eux, il les a déjà rappelées. Il leur rappelle cette vérité-là, que c'est important de trouver sa joie dans le Seigneur. C'est l'épître de la joie, souvent, quand on parle de Philippiens, on a cette idée-là que Paul, qui est dans une situation difficile, écrit un épître puis qui déborde de joie. On le voit dans différents endroits, Philippiens. J'ai marqué 2, mais je pense que c'est 1, Philippiens 1, verset 17 à 18. « Si chant de libation pour le sacrifice, pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Dans Philippiens 2, les versets 28 et 29, il y a cette idée d'envoyer Epaphrodite vers les frères puis afin qu'ils se réjouissent. C'est l'idée d'avoir une joie entière. Puis un texte un peu plus loin dans le chapitre 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, cette idée-là, Paul rappelle constamment cette idée-là qu'on doit se réjouir dans le Seigneur. Ce matin, dans ma lecture... quotidienne. Je lisais dans le psaume 34, c'est pas nécessaire de tourner, là. Ça dit, quand on tourne, le verset 6 du psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. À travers la parole de Dieu, constamment, à de nombreux endroits, on a ce rappel-là qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. On a besoin de se le rappeler parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à quand on a une crevaison, quand on a une mauvaise journée au bureau, quand nos enfants n'écoutent pas, on a tendance à se détourner de notre joie et à considérer les événements. Puis Paul rappelle cette idée qu'on doit se réjouir dans le Seigneur. Un commentaire que je trouve intéressant, il est intéressant de noter que c'est un homme captif. Paul est en prison quand il écrit la lettre. Captif des Romains qui sollicitait les gens libres à se réjouir dans le Seigneur. L'inverse ne semblerait-il pas plus logique? que Paul est en prison, il trouve ça difficile, puis que les frères lui disent, ben, « Paul, réjouis-toi, tu as le Seigneur, tu peux te réjouir. » C'est l'inverse qui se passe. Paul a pris une leçon que tout enfant de Dieu se doit d'apprendre. Il est possible de se réjouir dans le Seigneur, même au milieu de circonstances extérieures qui ne semblent pas de prime abord propices aux réjouissances. Même si les circonstances qu'on vit nous paraissent difficiles, nous paraissent comme une épreuve, on peut trouver notre joie dans le Seigneur. Puis c'est un Paul le vivait, puis il encourage les Philippiens à le vivre eux aussi. Donc, premier point, de se réjouir dans le Seigneur. Puis là, Paul arrête ici, on dirait pratiquement qu'il s'apprête à, quand il écrit sa lettre, il s'apprête à résumer, conclure, puis là, il s'arrête et dit, il y a un obstacle qui peut nuire à la joie, puis c'est important que je l'adresse. Puis là, il va faire un avertissement. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc, il mentionne trois expressions, les chiens, les mauvais ouvriers, puis les faux circoncis. Est-ce que vous pensez que c'est des compliments? Même si vous aimez les chiens, là, je pense pas. Vous voyez pas ça comme un compliment à Paul. Le but, c'est de pas être complimenté, dire des qualités. Au contraire, il utilise des expressions qui sont opposées à la gentillesse d'une certaine façon. Puis c'est des expressions très juives. Dans l'optique, c'est une lettre à des citoyens romains, à des païens, essentiellement, là. Mais c'est une des expressions très juives. Les chiens, souvent, dans l'esprit des juifs, c'était des incirconcis, c'était les nations, les païens, les mauvais ouvriers, c'est des imposteurs, des faux circoncis, c'est des gens qui se faisaient, le mot c'est concision, c'est des gens qui se faisaient des incisions, des mutilations dans la chair, quelque chose qui était interdit par la loi. Donc, Paul utilise des expressions dures pour s'adresser à un groupe de personnes en particulier qui est problématique. Est-ce que vous savez quel est ce groupe de personnes-là? C'est une question piège. Dans un contexte que ça parle de circoncision, de ne pas mettre sa confiance dans la chair, est-ce que Oui. En fait, on parle de judaïsants. C'était une réalité. Il y avait des faux enseignements au temps des apôtres, il y avait de faux enseignements. Puis, il y avait un enseignement, une doctrine qui était erronée, qui était très présente, qui causait beaucoup de problèmes. On entend parler dans les Actes, on entend parler dans Galates, on entend parler de cette épître-là. C'est un avertissement constant. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver des judaïsants? C'est quoi le problème, les judaïsants? Il y a une idée il y a une combinaison. C'est des gens, ils essaient d'arrimer ensemble deux choses. Ben, vous devez croire au Seigneur Jésus et marcher selon les coutumes juives. Dans Acte 15, c'est un peu exprimé, Acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc, c'est vous devez croire au Seigneur Jésus, mais en plus, vous faire circoncire, mais en plus, observer les règles de la loi. Vous devez observer la loi, puis c'est une erreur. Puis les apôtres ont écrit une lettre, d'ailleurs, par rapport à ça, dans Acte 15, « Ayant appris que quelques hommes parmi vous, partis de chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » C'est des gens qui ont troublé, qui ont ébranlé. Donc, c'est des gens qui ont créé une grande confusion, qui ont attristé les chrétiens. Puis, c'était un problème, puis c'était encore au problème au moment où Paul écrit la lettre aux Philippiens. Paul, un peu plus loin dans le même chapitre, il va dire au verset 18, « Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Donc, ces gens-là qui amènent ces fausses doctrines-là, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Ils amènent cette idée qu'ils doivent, en plus de l'œuvre du Seigneur Jésus, ils doivent ajouter leurs propres mérites, leurs propres œuvres, leur propre observation de la loi pour obtenir le salut. Puis c'est un mensonge, c'est une erreur. Puis donc, Paul, il avertit durement contre ces hommes-là. Puis il mentionne, en fait, les circoncis, les vrais circoncis. Tu sais, dans le Derby, ça dit la circoncision, c'est nous. Donc, c'est nous qui avons raison. C'est pas ces gens-là qui parlent d'une circoncision, c'est nous qui avons raison. Pourquoi? Parce que nous rendons grâce, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, pas par des cérémonies, des traditions, la culture juive, mais par l'Esprit. C'est comme ça qu'on le fait et nous glorifions en Jésus-Christ, nous ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, ils ne mettent pas leur confiance en leur propre capacité à atteindre, à plaire à Dieu. Au contraire, ils ne mettent point leur confiance en la chair. Un commentaire que je trouve intéressant. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Les hommes, en général, se glorifient de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont. T'sais, on se glorifie de nous, comme si ça sortait de nous. Le chrétien n'a pas de raison de se glorifier lui-même. Il est sauvé par la grâce de Dieu et tout ce qu'il a vient de Dieu. Donc, on n'a pas de raison de se glorifier en nous-mêmes. C'est par Dieu lui-même qu'on est sauvé. On se glorifie dans le Seigneur. Il y a un passage bien connu qui dit ça, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, Paul fait cet avertissement-là. Puis, pour exprimer l'exemple, pour donner un point supplémentaire, c'est que c'est un danger, il explique son propre témoignage, sa propre expérience de justice avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Ça nous mène à le deuxième point, les exploits de Saul de Tarse. Paul, il y a deux noms, là. Saul, qui est son nom juif, puis Paul, qui est son nom grec. Ici, j'utilise l'idée de Saul de Tarse avant sa conversion, si on veut. Donc, il va donner son propre exemple. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Donc, il dit, « S'il y a des gens qui amènent des fausses doctrines qui disent que vous devez vous appuyer sur les œuvres de la chair, moi aussi, je pourrais le faire. » On peut comprendre les gens à cette époque-là, les Philippiens qui sont des citoyens romains, des païens, des gens qui n'ont pas vraiment de connaissance de la loi, il arrive des gens avec des fausses doctrines, qui connaissent la loi, qui connaissent plein de choses, plein d'arguments, ça peut intimider, ça peut créer une confusion. Mais pas pour Paul. Paul, il savait exactement, il a grandi dans la loi, il est un pharisien, donc lui, ça ne l'intimide pas du tout, puis il est capable de bien répondre, puis il exprime qu'est-ce qu'il a vécu lui-même avant sa conversion. En fait, ce qu'il dit, « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Donc, l'idée de se confier en la chair, faire des belles œuvres, les gens qui disent ça, moi, essentiellement, j'ai un meilleur CV. J'ai plus de compétences, j'avais des meilleures qualités au niveau de la chair que tous ces gens-là qui vous amènent ces fausses doctrines-là. Puis là, il va l'exprimer, il va expliquer comment qu'il le fait moi. Puis là, il va mentionner 7 points, je vais le lire rapidement. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, il mentionne 7 points principaux. Dans lequel il pouvait trouver une valeur, il pouvait se valoriser, il pouvait se mettre en évidence. 4 points qui dépendent de ses origines, de sa nature, d'où est-ce qu'il a grandi, puis 3 points qui dépendent de ses propres accomplissements. Donc, il mentionne ces points-là, on va les regarder rapidement. Donc, les choses qu'il a acquises de sa naissance, la circoncision, la race, la tribu de laquelle il vient, puis le fait qu'il est hébreu. Donc, circoncision, évidemment, le 8e jour, Paul, quand il a été circoncis, il n'y a personne qui a demandé s'il donnait l'autorisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Paul, ses parents, le 8e jour, l'ont circoncis comme la loi le demandait. Donc, toute sa vie, dès le début de sa vie, il a été circoncis selon les coutumes, selon ce qui était exigé par la loi. La race dit qu'il était de la race d'Israël, donc le peuple d'Israël qui est le peuple élu de Dieu sur la terre. C'est un peuple qui a eu toutes tous les oracles de Dieu, toute la loi a été transmise à eux. Donc ces gens-là ont une certaine, évidemment, de certains privilèges que les autres nations n'ont pas. Donc Paul, il faisait partie de la bonne race, d'une bonne tribu aussi. Il venait de la tribu de Benjamin. Pourquoi Benjamin, ce serait une bonne tribu, vous pensez? Comment? Non, Benjamin, ce n'est pas un descendant de David. La tribu de Benjamin, c'est une des, c'est la tribu que Saül, le roi Saül. En fait, des 12 tribus d'Israël, Jacob a eu 12 fils. Il y a eu un seul fils qui est né en Israël, Benjamin. Les autres étaient nés à l'extérieur. Il y a 2 tribus qui sont restées fidèles à David. Judas et Benjamin. Jérusalem, c'est dans la tribu, c'est dans l'héritage de Benjamin. Donc, c'est une tribu qui a une grande valeur. Donc, il ne vient pas de n'importe quelle tribu. C'est, il dit ensuite qu'il est né d'Hébreu. Ce qui veut dire, c'est qu'il est un Hébreu. Ses parents étaient Hébreux, puis il a été élevé selon les standards hébraïques. C'est pas, il n'est pas élevé, même s'il était, il a grandi à Tars. Ben, il n'a pas grandi, il est né à Tars, mais on le voit dans son témoignage, il a grandi à Jérusalem. Mais ses parents l'ont. C'est pas un helléniste où il n'a pas été élevé selon la culture grecque, mais il a été élevé selon la culture juive. Donc, il y a tous ces points-là qu'il a reçus de ses parents. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est pharisien. Les pharisiens, évidemment, le Seigneur Jésus, il va constamment les remettre en question, mais c'est des gens qui, au niveau de la loi, avaient une volonté d'en faire même plus. La loi demandait quelque chose, on va essayer d'en faire davantage. On va se mettre une clôture littéralement autour de la loi pour s'assurer qu'on la respecte. Donc, il y avait un zèle, évidemment. Puis il mentionne, il était même zélé au point de persécuter l'Église. Évidemment, on comprend que quand il s'est converti, il a compris qu'il était dans l'erreur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sa motivation quant à la loi était tellement grande qu'il était prêt à persécuter ceux qui ne l'enseignaient pas, ceux qui s'y opposaient. Donc, on voit qu'il y avait un zèle très grand. Puis il mentionne même qu'il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez qu'il signifie qu'il n'y avait pas de péché? Non, évidemment, il est pas. Il reconnaissait. Je suis convaincu qu'il reconnaissait qu'il y avait des péchés, mais ce qu'il voulait dire, c'est que s'il avait, il se comportait d'une façon qui était différente de ce que la loi demandait, il offrait des sacrifices, il faisait des actions pour rester irréprochable. Donc, Paul avait un CV exceptionnel. Commentaire de William McDonald qui mentionnait « Quant à sa naissance, ses origines, son zèle et sa propre justice, Saul de Tarse était un homme remarquable. Même si on le voit comme un ennemi, mais il est un ennemi de l'Église au début, mais Saul, dans son comportement, il était remarquable. Il avait une volonté de bien faire les choses. Il avait une volonté dans la limite de ses capacités pour faire des choses. Donc, il était un homme remarquable. Il avait un beau CV. Il pouvait, dans sa tête, dire « Je vais aller devant Dieu. » Puis, il va dire « Wow, Paul, c'est quelqu'un. » Fait que c'est un peu l'idée que Paul avait avant sa conversion. Pourtant, cette idée-là a changé complètement, ce qui nous mène à notre troisième point, l'excellence de Jésus-Christ. Donc, Paul va faire la connaissance du Seigneur Jésus. Il va connaître qui est, puis il va voir que la perspective par rapport à ses propres actions, sa propre justice est erronée. Donc, verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc, Paul, il voyait ses actions, il voyait ça comme un gain, des médailles, des points, des avantages qu'il pouvait mettre, puis dire devant Dieu, « Regarde comment que je me comporte bien, ces choses-là, je les ai regardées comme une perte. » Ce que je considérais qu'il y avait de la valeur devant Dieu, bien, je me suis rendu compte que finalement, j'étais en faillite, que ça n'avait pas de valeur. Ses actions ont tombé. Il a réalisé qu'il était en faillite spirituelle. Pourquoi? À cause de Christ. À cause que sa référence a changé. La référence était ce qu'il croyait que lui pouvait faire, puis il croyait qu'il avait atteint des standards élevés. Puis on pourrait dire à l'œil humain que c'est des standards élevés, mais pourtant, quand il compare avec Christ, il réalise que ça n'a pas de valeur. Verset 8, il dit, « Je regarde toute chose comme une perte. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Donc, plus je connais le Seigneur Jésus, plus que je réalise que toute chose n'a pas de valeur devant lui, devant sa grandeur. Un commentaire que j'ai bien aimé, qui exprime bien ce que Paul, ou ce que Saul de Tarse a vécu. « Un jour, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse a rencontré celui qui a bouleversé sa vie et transformé son échelle de valeur. La vision céleste, cette lumière plus éclatante que la splendeur du soleil, ce qu'il va mentionner dans son témoignage dans les Actes, a illuminé les profondeurs de son être. Dès lors, il apprécie tout à cette lumière nouvelle et divine. Jusque-là, pesé à la balance humaine, il était sans reproche. À ses yeux, il était sans reproche, mais ce n'était qu'une apparence. À l'éclairage divin, quand il s'est comparé à Christ, il s'est vu comme le premier des pécheurs. Son cœur a complètement été changé. Il pensait qu'il avait atteint des hauts standards. Il s'est comparé au Seigneur Jésus, puis il dit, ça,
ça vole pas fort. J'ai raté. Je suis en faillite. Je n'atteins pas des standards qui sont acceptables. Puis ben, il va même mentionner qu'il regarde toutes choses comme de la boue. Dans la version, y a-t-il quelqu'un qui a la version Darby ici? Les gens qui protègent quelqu'un. C'est quoi l'expression que Darby utilise pour remplacer boue? Comment? C'est une belle tentative. C'est pas de la bouette. Mais ben, c'est une belle tentative. C'est des ordures. C'est des poubelles. Il dit tout ce que j'ai fait, tous mes accomplissements, toutes mes œuvres, je regarde ça comme des poubelles, des ordures. Ça n'a pas de valeur. En fait, le but de l'apôtre Paul ici, c'est d'utiliser le mot le plus qui représente les choses les plus dégoûtantes. Pensez à des choses que vous considérez comme dégoûtantes. Puis disait Paul, son but, c'est de dire ce que j'ai fait, ce que je pensais qu'il y avait de la valeur, quand j'ai comparé avec le Seigneur Jésus, c'est ça. C'est ce que ça n'a aucune valeur à comparer au Seigneur Jésus. Paul déclare qu'il a non seulement abandonné tout ce qu'il considérait officiellement comme précieux, ses actions considérées qu'il y avait de la valeur, mais que cela empestait l'excrément. Donc, il voit ça comme ses actions, ça l'empeste, c'est dégoûtant. Sa justice, il voit ça comme dégoûtant. Puis c'est intéressant, il faut garder en tête que Paul, je l'ai mentionné, il n'était pas une mauvaise personne, c'était pas un homme qui faisait tous les péchés. Au contraire, c'était d'autant plus remarquable quand on considère qui était Paul. Il représentait un courant de pharisaïsme qui était élevé, qui avait élevé la religion au niveau surhumain presque inaccessible. Donc, il faisait des œuvres qui étaient incroyables dans la mesure de la chair. Il y a personne, je pense, qui peut réussir à agir que de façon ces gens-là agissaient. Puis pourtant, puis c'était la bonne religion, d'une certaine façon, ils croyaient au bon Dieu. Puis pourtant, Paul, quand il considère ce que le Seigneur Jésus a fait, sa perfection morale, son excellence, sa sainteté, il dit tout ce que j'ai, ça n'a aucune valeur, ça vaut, il faut que ça aille à la poubelle. Fait que sa propre vie est prête à la jeter à la poubelle. Pourquoi? Pour je vais tout mettre de côté, puis je vais saisir, je vais gagner Christ. Puis si j'ai Christ, j'ai plus que tout ce que j'avais, parce que qu'est-ce que j'avais n'a aucune valeur devant Dieu, afin de gagner Christ. Donc, s'il y a Christ qui est gagnant et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, Paul, il reconnaît que c'est par ses propres forces, par ses propres actions, par sa propre chair, il n'arrive pas à atteindre un standard de justice, un standard de Dieu. Donc, il dit, je vais prendre la justice d'un autre, je vais prendre celle qui s'obtient par la foi, je vais mettre ma confiance en Christ, puis c'est comme ça que je vais avoir ma justice. Ce qu'il faut comprendre, puis c'est l'Évangile, il existe deux types de justice. L'une, vous la méritez, une justice est méritée, l'autre, vous est donnée par grâce. Donc, soit qu'on essaye de mériter la justice par nos propres œuvres, puis on n'y arrive pas, ou l'autre, on la reçoit, elle nous est donnée par grâce. L'une est votre propre justice, est donc imparfaite. L'autre est la justice pure et sans tache de Christ lui-même. L'une réside en vous et par conséquent est souillée par votre péché. L'autre réside en Christ et est donc aussi sans tache que lui. La vraie justice vient d'une source extérieure. Tout comme Abraham a cru en Dieu, cela lui a été imputé en justice. C'est le seul fondement sur lequel chacun de nous peut se tenir devant Dieu. Donc, on ne peut pas, par nos propres forces, atteindre un standard de justice. La seule façon, c'est que la justice nous soit imputée, soit mise à notre compte, qu'on reçoive la justice de quelqu'un d'autre, la justice de Christ. C'est la seule façon d'y arriver. Donc, c'est vraiment important qu'on le comprenne. C'est vraiment important que ça soit compris et accepté dans chacune de nos vies. Si vous essayez par vos propres forces d'atteindre des standards, ça ne sera jamais à la hauteur des standards de Dieu. Vous devez prendre la justice du Seigneur Jésus. Donc, Paul, ça nous amène à un quatrième point. L'objectif de Paul, le but de Paul dans sa vie, quand il a rencontré, quand il a saisi la justice, il va marcher maintenant avec un objectif différent. Puis une chose qui est intéressante, c'est intentionnel évidemment, j'ai mentionné le point 2, les exploits de Saul de Tarse. Puis ici, on est à l'objectif de Paul. Paul, il mettait tellement sa vie de côté qu'il était prêt à prendre son nom, son nom Saul, probablement qui était précieux pour lui, pour le mettre de côté, puis utiliser son nom juif, son nom grec, pardon, pour atteindre les nations. Il a changé complètement. Puis c'est quoi son objectif à partir du moment qu'il a saisi ça? Verset 10, ça nous dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est une phrase un petit peu compliquée. Ici, qu'est-ce que Paul veut dire ici, essentiellement? C'est que son but, c'est de marcher dans les traces du Seigneur Jésus. Lui, il est prêt à marcher dans les traces du Seigneur Jésus maintenant. Il réalise qu'il n'a pas obtenu la justice par les propres forces, mais pour le reste de sa vie, il veut suivre ses traces. Puis si ça l'implique de souffrir, ça l'implique de mourir, ça l'implique d'avoir le même genre de vie que le Seigneur Jésus, ça ne lui dérange pas. Rien ne ferait plus plaisir d'être avec le Seigneur, ne lui ferait plus plaisir que d'être avec le Seigneur dans la gloire de la résurrection en prenant le même chemin que lui a pris. Donc, il est prêt à... Si ça implique que je meure pour lui, je vais le faire. Il veut suivre les traces du Seigneur Jésus. Il veut le connaître même dans les expériences. Il a cette volonté de suivre le Seigneur Jésus coûte que coûte. Puis là, il mentionne, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, évidemment, Paul, il a compris qu'il avait, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas atteindre la justice. Maintenant, il marche dans sa vie chrétienne et il dit, je n'ai pas atteint la perfection. Je ne suis pas parfait encore aujourd'hui. Je n'ai pas atteint ce prix-là. Je ne suis pas parfait, mais qu'est-ce que je fais? Je cours. Puis il y a une volonté de courir. Puis ça, il faut le voir, aujourd'hui, c'est le marathon à Québec, là. C'est le marathon, puis si je suis plus très en forme, là, donc si je courais avec les gens du marathon, je serais loin, loin, loin derrière. Mais la volonté de Paul, c'est considérant Christ qui est lui parfait, qui est bien en avant, je vais courir le plus fort que je peux pour essayer de suivre ses traces. C'est un peu cette volonté-là de le suivre, de chercher à atteindre la perfection, même s'il sait que c'est impossible sur Terre. Son but, c'est de courir, de mettre tous ses efforts pour plaire au Seigneur, pour avoir une vie qui est conforme à lui. Donc, sa motivation, ce n'est pas d'obtenir la justice, c'est de marcher comme le Seigneur, qui, lui, est parfaitement juste. Donc, il court. Puis maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il oublie ce qui est à l'arrière. À partir du moment où Paul écrit cette lettre-là, qu'est-ce qu'il a fait après sa conversion? On est à quel moment au niveau de sa vie et dans l'histoire de l'Église? Paul est en prison, donc les actes sont passés. Donc, on est à la fin des actes. On est un peu dans acte 29, disons, qui n'existe pas, acte 29. Donc, Paul a vécu une vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des voyages missionnaires, il a prêché l'Évangile, il a fondé des églises. Paul, il a fait des choses pour le Seigneur comme aucun autre. Il a vraiment un CV chrétien extraordinaire. Puis Paul, il pourrait dire, là, il est en prison, puis il a donné un bon... Il pourrait dire, bien là, j'ai donné un bon coup, là, je vais me reposer, puis je vais donner la chance à d'autres. Sa motivation n'a pas changé. Il dit, même s'il en a fait beaucoup derrière, il oublie ce qui est derrière, il oublie ses bons coups, puis il oublie ses échecs, puis il oublie ce qui est derrière lui, puis il regarde ce qui est en avant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux continuer à courir, à marcher pour suivre le Seigneur? Donc, sa motivation n'est pas... Il n'arrive pas au point de dire, là, j'en ai fait assez, c'est autour des autres. Non, il continue jusqu'à la fin. Il se porte vers ce qui est en avant pour remporter le prix de la vocation céleste. Il va courir. Son but, c'est... Évidemment, c'est le Seigneur qui a remporté la victoire, mais son but, c'est de courir comme pour gagner une course. Puis dans l'idée, le prix de la vocation Québec, de la vocation céleste, pardon, probablement une idée de récompense, mais une idée simplement de terminer la course. Il dit, je suis sur la terre, je suis pour suivre le Seigneur, puis je veux courir jusqu'à la fin, puis après ça, obtenir les récompenses que le Seigneur Jésus a déjà remportées pour moi. Donc, Paul a cette volonté-là de courir, de persévérer, puis d'oublier ce qui est derrière, puis de voir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. On va regarder quelques applications pour nous en 2025. Quelles applications qu'on peut tirer d'un texte comme ça? Oui. On peut courir. Premièrement, j'aime ça faire un thème d'application. Là. Toutes mes applications commencent par « je ne suis pas ». Mais oui, c'est une des réponses que je vais dire, maman. Je ne suis pas, premièrement, je ne suis pas la source de la joie. C'est important de se le rappeler. C'est pas la joie vient pas de mes circonstances, de ce que j'ai fait, de ce que je suis. Là, mais je dois me rappeler que c'est comme Paul qui est en prison. Il est possible de se réjouir dans le Seigneur, même au milieu de circonstances extérieures qui ne semblent pas de prime abord propices aux réjouissances. Donc, je peux me réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que je fais, mes circonstances qui apportent ma joie, c'est le Seigneur. Deuxième point, je ne suis pas à l'abri du mensonge. C'est important de le mentionner. On voit, tu sais, j'ai été longtemps à lire les épîtres, lire les actes, puis dire les judaïsants, bien, il me semble que les gens auraient dû se méfier, puis auraient dû voir c'est quoi le problème, puis se détourner de ça. Mais je pense que ce n'est pas une bonne attitude. On a, tu sais, il y a un texte qui dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. On a à être prudent par rapport à ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a tellement d'informations, puis c'est facile de voir quelque chose qui ressemble à quelque chose de chrétien, des textes, des prédications, peu importe, puis de s'en prendre au piège. Je rappelle que dans la période où ce que les judaïsants agissaient, dans les épîtres aux Galates, entre autres, toute l'Église, ou presque, s'était fait prendre au piège, puis s'était détourné de l'Évangile. Puis c'est des gens qui avaient été informés, qui avaient été enseignés par Paul. Puis même dans Galates, il mentionne que Céphas, l'apôtre Pierre, qui était venu à Antioche, Paul a dû lui résister parce que sa conduite était répréhensible. Même Pierre était un peu instable par rapport à ça. Donc, nous, on a à être prudents, puis on a à dire, OK, est-ce que toutes les choses que j'entends, que je vois, est-ce que je m'appuie sur la parole de Dieu ou est-ce que j'ai tendance à manquer de discernement? Que le Seigneur nous donne du discernement à chacun d'entre nous. Je ne suis pas la source de la justice. Évidemment, je l'ai mentionné à quelques reprises. Un texte en Deutéronome, qui est verset 4 à 9, les versets 4 à 6. J'ai quelques extraits. Lorsque c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, qui rentre en terre promise, puis dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, les nations, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer dans la possession de ce pays. Ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu rentres en possession de leur pays. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce pays, ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Dieu disait, c'est Moïse qui parlait ici, là, mais Dieu, ce qu'il leur dit, ce n'est pas votre justice qui fait que vous avez ces choses-là. Si on est sauvé, c'est une grâce. Ce n'est pas à cause de notre propre justice ou notre propre intelligence. C'est important de bien comprendre et de bien saisir ça. J'aime toujours cette image-là d'une idée que, si, mettons, François, Michael et moi, on essaie de lancer, on est devant un grand lac, puis on essaie de lancer un caillou de l'autre côté. Puis même si François-Michel le lançait un centimètre plus loin que moi, on est tous les deux loin, loin de l'autre bord. Fait qu'on rate la cible, le but. Même si on est meilleur, notre justice peut paraître meilleure à vue humaine que les autres, on rate la cible. On rate la cible. C'est pas par notre propre justice qu'on peut atteindre les standards de Dieu. Il faut que ce soit une justice qui est imputée. Un autre point, je ne suis pas spectateur. Au début, je mentionnais mon frère que j'étais un spectateur de ses actions quand il jouait, qu'il a commencé à jouer au hockey. Dans la vie chrétienne, on n'est pas des spectateurs. On a à courir, on a à agir. On n'est pas en train de dire « je regarde les autres » ou « je suis satisfait de où est-ce que j'en suis au niveau de ma vie chrétienne » puis je laisse aller les choses. On a évidemment les capacités à travers les moments de la vie, les changent, mais on a à agir. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'oublie ce que j'ai fait, j'oublie les actions que j'ai faites, j'oublie les erreurs que j'ai faites derrière moi, puis je regarde qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur aujourd'hui, comment je peux continuer la course, puis comment je peux courir jusqu'à la fin. Il n'y a personne d'entre vous êtes tous vivants encore. Donc, il n'y a personne d'entre vous qui avait atteint la fin de la course, donc vous avez chacun, moi le premier, le devoir de continuer à courir, de persévérer jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul a voulu le faire. Je vais terminer par un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ce texte, merci pour cet exemple de Paul qui qui croyait par sa justice qu'il pouvait s'approcher de toi, puis qui s'est rendu compte que c'était impossible quand il a rencontré le Seigneur Jésus. Puis, Seigneur, on réalise tous notre faillite spirituelle. Puis, merci, Seigneur, qu'on s'est rappelé ce matin que le Seigneur Jésus est venu nous accorder, nous rendre justes, nous imputer cette justice-là. Donc, évidemment, ma prière, c'est que chacun ici puisse comprendre ces choses et se les approprier. Qu'il n'essaie pas d'être trouvé devant toi avec sa propre justice, mais la tienne. Puis, Seigneur, maintenant, pour nos vies, donne-nous de persévérer, donne-nous de courir, donne-nous d'être motivés à accomplir les œuvres que tu as prévues pour nous, puis qu'on puisse persévérer chacun ici jusqu'à la fin, parce que c'est ce que tu nous demandes. On te prie de bénir cette journée, cette semaine, et d'être avec nous à toutes choses. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.